sur le carafon, qui sur l'affiche du beer pendu au mur. Pas un ne chercha le regard de Burle. Il marcha doucement jusqu'à la porte et il sortit. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Tous ceux qui avaient traversé le canal couraient dans l'éclaboussement du projecteur, le dos bombé sous les balles des mitrailleuses. Ils disparurent dans la terre. Il ne resta plus que ce rond de feu qui marchait en silence, illuminant la boue et les morts. Arrêtez-vous, arrêtez-vous, disait doucement Joseph à voix basse là dans la terre. Il était couché contre le talus du canal, dans un beau creux noir où ne pouvait venir le projecteur. Arrêtez-vous, qu'il s'arrête. Ils n'entendent pas alors. Ils n'entendent pas qu'on crie, là-bas sur la passerelle, on crie. Et les pieds qui battent l'eau. Joseph regarde par-dessus son épaule, sans relever la tête, c'en est un, là-bas, qui est encore accroché par les mains à la planche de la passerelle et qui essaie de se remonter, mais il a le sac aux épaules. On le voit dans le reflet du projecteur. La passerelle est pleine de morts, elle emplit. Verron, Verron, c'est Couchepeau celui qui appelle là-bas, c'est Couchepeau qui est pendu par les mains puisqu'il appelle Verron. Et Verron où c'est qu'il est celui-là, dans les morts ou bien là-bas à entendre et à s'emplir les oreilles de terre. Oui, dit Joseph, j'y vais, il a haussé ses grosses épaules. Tout aussitôt, la plaque de feu du projecteur s'est aplatie sur lui. La nuit chante tout autour dans un essaim de balles. Il s'est recouché, il s'est fait petit, il n'a plus bougé, Verron vite, vite, la mitrailleuse est en train de mâcher le bois de la passerelle et la chair des morts. Vite, vite, de Dieu souffle Joseph, vite. Et maintenant la mitrailleuse mange quelque chose de chaud et de vivant, elle ronronne dans de la chair molle. Ah, Verron, l'eau s'ouvre, tout écrasée par le poids de l'homme, la passerelle délivrée geint lentement en se balançant. Il y avait toujours une trêve du petit matin, à l'heure où la terre sut sa fumée naturelle. La rosée brillait sur la capote des morts. Le vent de l'aube, léger et vert, s'en allait droit devant lui. Des bêtes d'eau pataugeaient au fond des trous d'obus. Des rats aux yeux rouges marchaient doucement le long de la tranchée. On avait enlevé de là-dessus toute la vie, sauf celle des rats et des vers. Il n'y avait plus d'arbres et plus d'herbes, plus de grands sillons, et les coteaux n'étaient que des os de crête ou des charnets. Ça fumait doucement quand même du brouillard dans le matin. On entendait passer le silence avec son petit crépitement électrique. Les morts avaient la figure dans la boue, ou bien ils émergeaient des trous, paisibles, les mains posées sur le rebord, la tête couchée sur le bras. Les rats venaient les renifler. Ils sautaient d'un mort à l'autre. Ils choisissaient, d'abord les jeunes sans barbe sur les joues. Ils reniflaient la joue puis ils se menaient en boule, et ils commençaient à manger cette chair d'entre le nez et la bouche, puis le bord des lèvres, puis la pomme verte de la joue. De temps en temps ils se passaient la pâte dans les moustaches pour se faire propre. Pour les yeux, ils les sortaient à petits coups de griffe, et ils léchaient le trou des paupières, puis ils mordaient dans l'œil, comme dans un petit œuf, et ils le mâchaient doucement, la bouche de côté en humant le jus. Quand l'aube n'était pas encore bien débarrassée, les corbeaux arrivaient à larges coups d'ailes tranquilles. Ils cherchaient le long des pistes et des chemins les gros chevaux renversés. À côté de ces chevaux, aux ventres éclatés comme des fleurs de caprier, des voitures et des canons culbutés mêlaient la ferraille et le pain, la viande de ravitaillement encore entortillée dans son pansement de gars, et les baguettes jaunes de la poudre à canon. Ils s'en allaient, aussi sur leurs ailes noires jusqu'au carrefour des petits boyaux, à l'endroit où il fallait sortir pour traverser la route. Là, toutes les corvées de la nuit laissaient des hommes. Ils étaient étendus, le seau de la soupe renversé dans leurs jambes, dans un mortier de sang et de vin. Le pain même, qu'ils portaient était crevé des déchirures du fer et des balles, et on voyait sa mie humide et rouge gonflée du jus de l'homme comme des bouts de miche qu'on trempe dans le vin pour se faire bon estomac au temps des moissons. Les corbeaux mangeaient au pain, et en même temps, ils le vendangeaient de leurs griffes en sautant d'une patte sur l'autre. De là, ils s'en venaient jusqu'à pousser de la tête le casque du mort. C'était des morts frais, des fois tièdes et juste un peu blêmes. Le corbeau poussait le casque. Parfois, quand le mort était mal placé et qu'il mordait la terre à pleine bouche, le corbeau tirait sur les cheveux et sur la barbe tant qu'il n'avait pas mis à l'air cette partie du cou où est le partage de la barbe et du poil de poitrine. C'était là tendre et tout frais, le sang rouge y faisait encore la petite boule. Il se mettait à becquer là, tout de suite, à arracher cette peau, puis il mangeait gravement en criant de temps en temps pour appeler les femelles. Les morts bougeaient. Les nerfs se tendaient dans la raideur des chairs pourries et un bras se levait lentement dans l'aube. Il restait là, dressant vers le ciel sa main noire tout épanouie, les ventres trop gonflés éclataient et l'homme se tordait dans la terre, tremblant de toutes ses ficelles relâchées. Il reprenait une parcelle de vie. Il ondulait des épaules comme dans sa marche d'avant. Il ondulait des épaules, comme à son habitude d'avant quand sa femme le reconnaissait au milieu des autres, à sa façon de marcher. Et les rats s'en allaient de lui. Mais ça n'était plus son esprit de vie qui faisait onduler ses épaules, seulement la mécanique de la mort, et au bout d'un peu, il retombait immobile dans la boue. Alors les rats revenaient.